Radio Kapi.
Le journal Pascal Massirica. À la une ce midi, 10 morts et d'importants dégâts matériels. Bilan provisoire d'une nouvelle attaque de rebelles ougandais de l'ADF cette nuit au quartier Rwangoma dans la ville de Beni au Nord Kivu. L'ICSN débloque 450 000 dollars américains pour réhabiliter 1300 mètres de la conduite d'eau de la régie des eaux endommagée récemment par l'éruption du volcan Nyiragongo à Bouchara. Ce projet dessert plus de 720 000 personnes au nord de la ville de Goma. Notre invité, c'est le député national Jean-Pierre Kezamundru, l'élu de Niangara, vient de participer à un atelier de sensibilisation sur les conflits liés au pastoralisme et à la transhumance transfrontalière organisée ici à Kinshasa par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Madame, Messieurs, bonjour au Nord Kivu. 10 morts et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan provisoire d'une attaque des rebelles ougandais de l'ADF cette nuit au quartier Rwangoma dans la ville de Beni. Selon des témoins, le bilan pourrait s'alourdir car plusieurs personnes sont introuvables et le fouille continue. Les FARDC confirment cette attaque et disent poursuivre les assaillants. À Beni, le récit d'André Kitenge.
L'attaque a eu lieu aux environs de 23h au moment où plusieurs coups de feu ont été entendus, suivis des cris de la population au quartier Rwangoma dans la commune Béou. Selon des témoins, le bilan provisoire fait état de 10 morts dont 3 femmes tuées à l'armée blanche. Pour l'instant, tous les corps ont été acheminés à la morgue de l'hôpital général de référence de Beni. Des personnes disparues sont également signalées et quelques maisons et boutiques incendiées. Contacté, le porte-parole des opérations Sokola 1 confirme cette attaque. Il indique que les FARDC, appuyés par les casques bleus de la MONUSCO sont intervenus pour limiter les dégâts. Cette situation a occasionné le déplacement de certains habitants vers d'autres quartiers de la ville, craignant pour leur sécurité. Ce matin, la désolation se lisait sur les visages des habitants de Beni. Certaines écoles et maisons de commerce n'ont pas ouvert leurs portes. Face à cette énième attaque, certains habitants ont barricadé quelques artères pour manifester leur mécontentement. Des coups de feu ont même été entendus également vers la partie sud de la ville. Pendant ce temps, le maire de Beni dit être sur le terrain pour s'enquérir de la situation et appelle la population au calme. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
À Beni, reprise timide des activités scolaires et commerciales ce jeudi après la levée de la mesure de suspension de ces activités par le maire suite aux attaques à la bombe artisanale enregistrées le week-end passé. Cela s'explique par l'assassinat cette nuit au centre-ville de Beni de 10 civils par des présumés rebelles ougandais de l'ADF. Du coup, la psychose a gagné la population ce matin. Les parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. Certains enfants qui ont de se rendre dans leurs écoles respectives ont été renvoyés par les responsables des établissements scolaires. De même, certains opérateurs économiques n'ont pas ouvert leurs maisons de commerce craignant des troubles dans la ville. Pour l'instant, la police nationale et les FARDC patrouillent dans la ville pour parer à toute éventualité. Nord Kivu, encore plusieurs villages à cheval entre la chefferie de Bachou et le secteur de Rouenzori dans le territoire de Beni, c'est vide et de plus en plus de leurs habitants. D'après la société civile du Nord Kivu, cette situation est observée depuis l'incursion des rebelles ougandais de l'ADF dans cette partie de la province il y a 2 semaines. Edgar Mateso, vice-président de la société civile provinciale, exprime sa crainte pour les personnes enlevées par ces rebelles lors de leur incursion. Pour en parler, retrouvons à Butembo grâce à Mzati.
Parmi les agglomérations qui se vident de leurs habitants, la société civile cite notamment Kanyihunga dans la chefferie de Bachou et Lissassa dans le secteur de Rwenzori. Il existe également d'autres villages à cheval entre les deux chefferies. Edgar Mateso indique que cette situation est due à la présence des rebelles des ADF dans la zone, d'autant que plus de 20 personnes enlevées par ces rebelles sont toujours portées disparues.
Il n'y a pas encore d'avancée sur l'évolution de cette question parce que depuis qu'ils ont été enlevés, jusqu'à présent, ils ne sont toujours pas retrouvés. À cela s'ajoutent effectivement d'autres personnes qui sont en train d'être enlevées aux environs de la ville de Beni, ce qui continue à renforcer notre crainte. Les grandes agglomérations qui sont déjà vidées, il s'agit de Lissassa et Kanyihunga, Gombrie également, les villages tout autour. Cette population est en train de craindre parce que ces rebelles n'ont toujours pas été inquiétés.
Toutefois, le chef de la chefferie de Bachou indique que deux des otages ont regagné le village et un autre a été retrouvé mort dans son champ. Le Mouami Abdoul Kalimire III affirme que certains habitants vaquent à leurs activités, surtout dans sa partie de la chefferie de Bachou. Tous nos efforts pour avoir le porte-parole des opérations Sokola 1 à ce sujet n'ont pas réussi. Boutembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
En Ituri, pendant ces temps, plus de 200 personnes ont déjà perdu la vie en l'espace de 45 jours dans quatre chefferies du territoire d'Irumu, publié par l'association culturelle UNADI lors d'un point de presse tenu hier mercredi. Ces chiffres ne sont pas confirmés par les FARDC. Le président de cette structure communautaire s'inquiète de la dégradation de la situation sécuritaire dans la zone. Le compte-rendu d'Ezekiel Mouzalia.
L'adresse de l'UNADI intervient au moment où la tension reste perceptible dans plusieurs villages de la chefferie de Walès et Vankoutou. C'est à la suite des affrontements entre les FARDC et les rebelles des ADF qui ont causé la mort d'une trentaine de civils. Janvier Bin Ekwali.
L'opération de ces groupes armés a commencé à Tchabi, Baema Mitego, Baema Boga. Et aujourd'hui, la cible maintenant, c'est Walès et Vankoutou. Et dans ces 45 jours de l'état de siège, nous, l'UNADI, nous comptons déjà plus de 200 morts.
L'armée en Ituri ne confirme pas le bilan des 200 morts. Elle réaffirme en revanche sa ferme détermination à démanteler toutes les forces négatives dans la province. Le lieutenant Jules Ngongo rapporte que les opérations se poursuivent dans le sud d'Irumu et dans bien d'autres coins où les ennemis de la nation se seraient cachés. Le lieutenant Jules Ngongo.
Depuis la proclamation de l'état de siège jusqu'à nos jours, nous avons encore neutralisé 100 terroristes et leurs supplétifs, 13 éléments de groupes armés. Entre autres les ADF, 13 Maïmaï et il y a eu 4 armes qui ont été récupérées.
Signalons que plusieurs habitants de la chefferie de Walès et Vankoutou sont en déplacement, c'est là malgré la reconquête de cette entité par les militaires des FARDC. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où 1300 mètres de la conduite d'eau du réservoir de la régie des eaux de Bouchara sont à nouveau de service. C'est grâce à un projet du parc national de Virunga qui a mobilisé 450 000 dollars américains pour ces travaux d'urgence qui ont été exécutés pendant 30 jours. Ce projet devrait rétablir l'eau potable dans au moins 7 quartiers du nord de la ville de Goma privés d'eau potable. Suite à l'éruption volcanique de Nyiragongo. Des précisions avec le directeur de Virunga Energy, Ephrem Balolé, au micro de Bernard Nyangi.
Après l'éruption Virunga, c'était proposé de pouvoir refaire les tuyauteries qui avaient été endommagées par la lave. C'est d'assurer la continuité du pompage de l'eau de la station Lac Kivu jusqu'au réservoir de Bouchara, dont deux n'avaient pas été endommagés. Cela permettait en effet de pouvoir refaire le fonctionnement du réseau d'eau comme il était avant, hormis la capacité qui aura diminué parce qu'il y a le grand réservoir qui a été fortement touché. Pour ce faire, Virunga a mobilisé auprès de ses partenaires, notamment l'Union européenne, la Fondation Schmidt, UNICEF, 450 000 dollars pour faire ces travaux-là, grâce bien sûr au concours du gouvernement congolais qui a donné les facilités de passage en douane. Nos équipes ont travaillé jour et nuit pour réaliser rapidement ce travail. On a posé 1300 mètres de tuyaux de 500 mm et 300 mètres de tuyaux de 300 mm qui alimentent les quartiers à l'ouest de la ville de Goma.
Notez que la remise officielle de ces ouvrages au gouvernement congolais et à la régie des eaux va intervenir incessamment selon des sources locales. Non loin de là, au sud Kivu maintenant, la chef de la MONUSCO a échangé ce jeudi avec les élèves du lycée Tchirézi, une école catholique de la ville de Bukavu. L'entretien a tourné autour du thème « Entre femmes leaders aujourd'hui, défis et perspectives ». Madame Bintou Keïta est partie de ses expériences pour encourager ses élèves filles à atteindre leurs objectifs. Après cet échange, s'en est suivi la remise du matériel informatique et des laboratoires qui permettront ainsi à ses élèves de lier la théorie à la pratique. Un reportage à Bukavu de Rachel Kiesembangu.
l'utilisation de l'influence à des fins positives, pas seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. C'est par ces mots que Bintou Keïta a interpellé les jeunes filles pour les inciter à l'influence positive.
Leadership, ça veut dire que le matin, quand vous vous réveillez, votre première pensée, c'est pas les réseaux sociaux. C'est de vous dire, qu'est-ce que moi, je vais servir comme leader aujourd'hui dans ma sphère d'influence? Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais pouvoir communiquer et qui va transformer ma vie à moi, mais va transformer la vie de plusieurs autres personnes?
Très émus de ces échanges avec la chef de la MONUSCO, les élèves en sont repartis avec un plus positif et motivés. L'une d'elles, Binja Charlotte.
Le passage de Madame Bintou Keïta dans notre école a été une immense joie pour nous parce que c'est une personnalité dont on entend parler et la voir en personne, échanger avec elle, ça a été une opportunité pour nous. Nous la remercions, elle, pour tout ce qu'elle a apporté de plus dans nos connaissances, surtout en matière de leadership féminin.
Le lycée Tchérésie a bénéficié de 20 ordinateurs, laptops, d'une imprimante, d'un instincteur, d'une balance, d'un microscope, d'un alcalimètre, mais aussi des ustensiles millimétrés. Après cette visite, Bintou Keïta s'est envolée pour Mikenge dans le territoire d'Ouvira. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Politique à présent, la RDC n'a pas vocation à demeurer une zone d'extraction des ressources primaires sans leur donner une valeur ajoutée. Déclaration faite hier mercredi par Martin Fayulu Madidi, le président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID, membre du présidium de la MUCA, s'exprimait ainsi à l'occasion de la journée anniversaire de l'indépendance de la RDC. Selon lui, la paix et la prospérité économique en RDC passent par le développement des industries de transformation et des grandes infrastructures telles que les voies des communications. Martin Fayulu Madidi au micro de Paul Matendo.
Sans institutions légitimes, sans enrayer la corruption endémique actuelle, le développement du Congo restera utopique. Notre pays n'a pas vocation à demeurer une zone d'extraction des ressources primaires sans leur donner une valeur ajoutée. La paix et la prospérité en RDC passent entre autres par le développement des industries de transformation ainsi que des infrastructures de communication, routes, rails, ports, aéroports, pour assurer la liaison entre toutes les provinces et tous les territoires du pays.
Dans sa déclaration, Martin Fayulu Madidi a également appelé le peuple congolais à rester éveillé jusqu'à l'exhumation du rapport Mapping. Et puis la Gécamines, qui était à l'époque la plus grande entreprise minière du pays, bat de l'aile. 61 ans après l'indépendance du pays, elle fait face à plusieurs défis pour son développement. La plupart de ses anciens gisements sont aujourd'hui entre les mains des entreprises minières privées. À Lubumbashi, une correspondance de Jean Gandou.
La Gécamines était présentée autrefois comme le fleuron de l'économie congolaise avec une participation de l'ordre de 70% au budget national il y a plusieurs années. Ses gisements étaient parsemés à travers plusieurs coins de la province du Katanga et sa production était reluisante. C'est ainsi qu'en 1986, elle avait réalisé son record de production avec 476 000 tonnes de cuivre, 14 500 tonnes de cobalt et 64 000 tonnes de zinc lingot pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre d'un milliard de dollars américains. Ce temps rose était suivi dès 1987 d'une chute qui s'accélérera en 1990 suite à la conjonction de plusieurs événements dont l'effondrement de la mine souterraine de Kamoto à Kolwezi, les troubles sociopolitiques qui avaient émaillé le pays au début des années 90 et l'arrêt brutal de financement des bailleurs de fonds. Pour l'heure, la Gécamines a cédé certains gisements à d'autres investisseurs et les agents ont dans un passé récent assisté à la détérioration de leurs conditions socio-économiques. Bref, en 61 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, pour plusieurs analystes et anciens de cette société minière, la Gécamines n'est plus ce qu'elle était malgré les efforts qui sont fournis par les différents comités de gestion qui se sont succédés. Toutefois, estime-t-il, l'espoir est permis. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Que pensent les Congolais de leur pays 61 ans après l'indépendance? Radio Okapi a recueilli les avis de la population. Suivez ces différentes réactions recueillies par Michel Outeté.
Nous réalisons que 61 ans après l'obtention de l'indépendance, nous voyons que les choses tournent à rond. Il faut se dire que bon, ce n'est pas à 100% la volonté des Congolais que ce pays soit comme ça, mais il y a aussi la part de la communauté internationale.
Il est vrai que nous venons de passer des années, depuis l'indépendance jusqu'à il y a 2 ans, le pays avait vraiment, d'après moi, chuté. Mais avec l'actuel chef de l'État, moi personnellement, je pense qu'il y a quand même de l'espoir. C'est quelqu'un qui a quand même la volonté de faire mieux.
Ce que nous vivons aujourd'hui est loin du terme indépendance. Si tel était le cas, la population n'allait pas autant souffrir. Donc les 61 ans, pour moi, n'a rien changé. Quand même, moi, je me retrouve un peu parce que je me bats. Et les autres?
Moi, je pense que pour le Congo d'aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Plus on est en train d'avancer en termes des années, en fait, de fête de l'indépendance, certes, mais c'est comme si on est en train toujours de régresser.
Le Congo d'aujourd'hui a un peu évolué. D'abord secteur, d'abord social, il y a un peu de développement qui arrive.
Il y a moins de choses qui se sont réalisées. La population n'est pas indépendante, au fait. D'abord, l'indépendance, c'est l'état d'esprit. Donc, la personne d'abord. Rien n'a avancé, selon moi. Battons-nous.
Actualité internationale.
Le président kényan Uhuru Kenyatta est à Paris pour rencontrer son homologue français. C'est leur 3e rencontre bilatérale en l'espace de 3 ans. Il mettra à profit son séjour à Paris pour un séjour de 2 jours pour participer au Forum des Nations Unies sur l'égalité des sexes, alors que son pays s'est engagé résolument à mettre fin aux violences faites aux femmes d'ici 2030. Uhuru Kenyatta va également renforcer le partenariat franco-kényan. Emmanuel Macron souhaite en effet renforcer la présence française en Afrique de l'Est et privilégie pour cela sa relation avec le Kenya. Et puis les dirigeants éthiopiens ont cherché mercredi après-midi à minimiser l'importance de la retraite de l'armée de Mekele, la capitale de la région en guerre du Tigré, affirmant être en mesure maintenant de reprendre la ville quand ils le souhaiteront. La ville de Mekele était sous le contrôle de l'armée fédérale depuis le 28 novembre dernier, 3 semaines après le lancement par le Premier ministre Abiy Ahmed d'une offensive pour renverser les autorités locales issues du Front de libération du peuple du Tigré.
L'invité.
La communauté économique des États de l'Afrique centrale vient d'organiser à Kinshasa, avec l'appui du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, un atelier d'information et de sensibilisation sur les conflits liés au pastoralisme et à la transhumance transfrontalière. Le député national Jean-Pierre Kézamoundrou, élu de Niangara dans le Haut-Ouélé, y a participé. Dans un entretien avec Jean-Pierre Elali Koko, il revient sur les recommandations de cet atelier, de la présence des éleveurs nomades étrangers, mais aussi de la contribution du pays, de la région et des agences onusiennes. Suivez.
Monsieur Kézamoundrou, Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous venons d'assister à un atelier qui porte sur la problématique de la présence des nomades dans les pays et notamment dans votre province. Et il y a eu des recommandations. Qu'est-ce que, selon vous, la recommandation marquante dans ces travaux?
Merci, monsieur le journaliste. La recommandation qui m'a plus marqué dans cet atelier sur le pastoralisme et la transhumance, c'est le fait que nous avons mis tous les États membres de la CEAC devant leurs responsabilités en leur demandant de réglementer cette transhumance-là, parce que notre pays, la RDC, a plus de 450 tribus et aucune tribu n'est nomade. Donc la transhumance, ce n'est pas la culture congolaise et on ne peut pas chercher à nous imposer cette transhumance-là. On ne peut pas chercher à nous imposer le pastoralisme dès lors que cette partie du nord-est de la RDC ayant une vocation plutôt agricole que pastorale, nous n'avons pas du tout accepté la cohabitation avec ces éleveurs étrangers, nomades, armés, envahisseurs, mbororo.
Monsieur le député, comment va se faire cette réglementation lorsqu'on sait que ici au pays, et cela a été dénoncé, il y a le manque ou même l'absence de l'autorité de l'État. Est-ce que vous croyez que les pays étrangers vont travailler à votre place?
Je tiens à préciser que la CEAC a plus ou moins 11 États membres et la République démocratique du Congo est l'un des membres de la CEA. Le travail commence au niveau des chefs d'État de ce pays-là, de cette association, de la communauté CEAC. Et après les chefs d'État, ça va descendre au niveau du gouvernement, le pouvoir exécutif. Ils doivent travailler, ébaucher un projet de loi réglementant la transhumance et le pastoralisme. Et après, ils vont transmettre à nous de l'Assemblée nationale ces textes-là que nous allons charcuter et produire un document bien fait et fini. C'est comme ça que cela va se passer.
Et dans la pratique, au niveau de votre province, où elle est, il y a ce problème, la présence des Mbororo. Et vous avez dénoncé, en tant que député, c'est la cohabitation difficile.
Impossible, entre... pas difficile, c'est la cohabitation est impossible.
Bon, en tout cas, ça c'est vos propres mots, mais moi je parle d'une cohabitation qui est difficile. Et en tant que député, quel est le rôle que vous devez jouer pour que la vie soit quand même réglementée de ce côté et que les populations locales puissent vivre en paix?
Mon rôle en tant que député national du territoire de Niangara dans la province, c'est de porter tout haut la voix de la population qui est envahie par ces éleveurs étrangers, les Mbororo, et de faire écouter cette voix au niveau national et au niveau international. C'est ce que je suis en train de faire avec vous maintenant.
Qu'est-ce que vous attendez juste des agences des Nations Unies et en ce qui concerne sa problématique de la présence des nomades étrangers dans cette partie du pays qui est le Haut-Uele?
Ce que nous attendons des agences des Nations Unies, c'est la neutralité. Ces agences des Nations Unies...
Vous croyez qu'ils ne sont pas neutres?
Je crois qu'ils ne sont pas neutres parce qu'ils ont déjà tenu deux grandes réunions sans associer les élus nationaux que nous sommes. Et c'est matière à suspicion. Tout ce qui s'est fait sans nous, c'est fait contre nous.
Et qu'est-ce qui va changer? Votre présence, qu'est-ce qui va changer?
Bien sûr, notre présence à cet atelier d'aujourd'hui sur le pastoralisme et la transhumance a changé beaucoup de choses, parmi lesquelles les résolutions que nous avons confectionné. Si nous n'étions pas présents, on allait consacrer des concepts qui fâchent, comme la cohabitation, l'intégration de ces étrangers au sein de nos communautés locales. Et tout ça, nous avons sauvé le nord-est de la RDC, nous élus nationaux, en participant à cet atelier. Et si on continue à nous associer comme ça, on va trouver une solution.
Monsieur le député, merci.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
C'était l'invité de Radio Okapi, le député national Jean-Pierre Kézamoundrou. L'élu de Niangara était interrogé par Jean-Pierre Elali Koko et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Élisée Tikota qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelekipe Lamondo. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net et sur les différentes plateformes de Radio Okapi. Plateforme numérique, bien entendu, dans quelques instants, la page des sports.